Bonjour, je m'appelle Apolline et en septembre 2021, j'ai décidé de partir vivre un an au Liban pour une année de césure et notamment pour traverser le pays à pied, ce que j'ai fait en mai de 2022.
Vous écoutez Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Deux fois par mois, je reçois un ou une invitée qui se raconte au travers d'un voyage qui l'a marqué. Dans cet épisode, Apolline raconte le Liban. Avec elle, on a parlé d'inflation, d'hospitalité et de cèdre.
J'ai bourlingué à travers le monde. En fait, j'étais prise en école de journalisme à Paris, ce que j'ai appris en juillet 2021. Mais en août, j'ai décidé de prendre une année de césure et de décaler ma rentrée d'un an, ce que mon école a accepté. J'étais déjà partie au Liban en 2020, juste avant le début du Covid. J'ai eu l'occasion de vivre un mois là-bas, avant d'être confinée. Et je suis tout de suite tombée amoureuse du pays. Je rêvais de partir au Proche-Orient depuis longtemps et j'étais vraiment frustrée. Donc je suis restée là-bas en fait pendant le confinement en me disant que ça allait pas durer longtemps, que mon expérience allait se poursuivre, ce qui n'a pas été le cas parce que le confinement finalement il a duré 2 mois. Et donc j'étais dans mon appartement à Beyrouth à essayer d'imaginer une solution pour pouvoir sortir et pouvoir profiter à nouveau de ce pays, et je suis tombée sur une association qui s'appelait le Lebanon Mountain Trail, qui gère en fait un sentier qui traverse le pays du nord au sud, et ça m'a vraiment marquée. Je me suis dit qu'il fallait que je le fasse, mais finalement j'étais rapatriée. Donc je suis rentrée en France, mais avec cette idée-là, que je voulais un jour retourner au Liban, et donc avec cette césure que j'ai prise à partir de septembre 2021, j'ai eu l'occasion de retourner au Liban. Jusqu'à décembre, je travaillais dans une association pour aider à reconstruire les bâtiments détruits par l'explosion du 4 août 2020, parce que il y a eu une énorme explosion qui a détruit ou endommagé une grosse partie de la ville, notamment des quartiers d'habitation qui étaient juste à côté du port, et avec la crise économique, sociale, financière que traverse actuellement le pays, le gouvernement n'a rien fait, n'a pas reconstruit un bâtiment, et donc c'est les associations qui prennent ça en charge. Et j'avais envie de faire quelque chose de concret, d'utile pour les autres. Et donc, je me suis dit qu'il n'y avait rien de plus concret que ça. Donc voilà, j'ai été 4 mois sur le chantier. C'était absolument incroyable de rencontrer les habitants, de les voir réemménager chez eux, d'avancer. On appelait souvent ça le puits sans fond, ce quartier qui s'appelait Quarantina, parce que on vidait des graviers dans une maison pendant une journée. Et puis en fait, le lendemain, il y en avait à nouveau parce que les ouvriers avaient cassé un mur. Enfin... Et on était là avec nos pelles, on avait l'impression que ça servait à rien, mais en fait, à la fin de l'année, c'était utile. C'était une expérience dingue, et puis ça permettait de voir de ses propres yeux, en fait, la situation du pays. On en entend un petit peu parler, mais de manière... un peu en pointillé. J'essaye aussi d'avoir un peu un œil de journaliste là-dessus. La couverture de ce pays est pas forcément dingue en France. On parle pas forcément de tout. Et donc là, en fait, j'ai vraiment fait face à cette situation. C'est assez marquant, surtout que c'est un pays auquel je me suis beaucoup attachée. Et à partir de janvier, j'ai travaillé dans un média libanais. Je faisais des reportages jusqu'au mois de mai. C'était une superbe expérience aussi. J'avais déjà fait un stage là-bas, mais j'ai quand même beaucoup appris. Donc c'était très chouette. Et en parallèle de tout ça, j'ai beaucoup bougé dans le pays. Je suis originaire d'Annecy, donc j'ai toujours aimé la randonnée. Et surtout là, je me disais que j'avais un an de césure avant de passer mes journées à Paris, mes semaines à Paris. Donc je voulais profiter un maximum. Et donc j'ai fait pas mal de randonnées, de ski de randonnée aussi, pendant l'automne, puis l'hiver. J'ai essayé d'en profiter à fond. Parce que en fait, on imagine le Liban comme un pays désertique. C'est un peu flou dans la tête des gens, mais en fait, le Liban, c'est un pays qui est très vert, qui est au bord de la mer, avec une chaîne de montagnes qui le traverse, qui s'appelle le Mont Liban, qui se jette dans la mer. Donc en fait, y a tout à 2 heures de route. Et donc j'ai fait beaucoup de randonnées, beaucoup de balades jusqu'à des cascades. Y a des paysages qui sont très verts, c'est très beau. Mais c'est pas non plus très connu aussi, parce que les Libanais ont pas cette culture-là de la randonnée. Enfin, ils préfèrent faire une balade en voiture jusqu'à un endroit, marcher éventuellement 20 minutes... prendre une chicha et puis repartir. Moi, je me suis dit que je voulais pas du tout me limiter à ça. Donc, j'ai fini par faire des choses seule, parce qu'en fait, voilà, il n'y a pas cette culture-là. C'est des gens qui sont très chaleureux, qui accueillent beaucoup. Enfin, je vais en reparler par la suite, mais ça crée des souvenirs très forts. Mais pour le coup, ils sont pas très, très sportifs et ils sont pas forcément curieux de découvrir les endroits dont ils sont pas originaires dans le Liban. C'est lié aussi à l'histoire, à la guerre civile, etc. Il y a des grosses divisions au sein de la population.
Mais donc voilà, pour toutes ces raisons, j'ai commencé à faire des choses plus ou moins seule ou avec des amis français également. Et jusqu'au mois de mai, où j'ai décidé donc de faire cette traversée du Liban que j'avais découverte 2 ans avant. J'ai choisi le printemps parce que c'est le mois le plus idéal pour partir, parce qu'il y a quand même beaucoup de neige sur les sommets et à ce moment-là, ça fond pas mal. Et puis je devais partir plutôt vers le 15 avril et puis en fait j'ai reculé parce que c'est dur en fait, j'avais ma vie à Beyrouth, tous mes amis qui me disaient « mais pourquoi tu fais ça ?» Tous mes amis libanais qui comprenaient à moitié. Et c'était dur de partir, mais à un moment je me suis dit « Apolline, là, faut que tu partes, arrête de repousser le moment » et donc je me suis donné comme deadline le 1er mai. J'hésitais aussi beaucoup à partir seule, c'était mon objectif au début. Je déteste la solitude et donc je me suis dit qu'il n'y avait rien de mieux que vivre un mois seul pour apprendre à aimer la solitude, ou en tout cas à s'y faire. Je voulais vraiment travailler là-dessus et puis en fait je voyais pas la personne qui pourrait partir avec moi, donc je me suis dit arrête d'attendre, vas-y, et puis ça se trouve tu trouveras des gens sur ta route. Mais finalement en fait tout le monde m'a dit que c'était très dangereux parce que on dit toujours que le Liban est un pays très dangereux, ce qui est vrai sur certains points, les dangers sont pas du tout les mêmes qu'en France. Pour une femme, c'est encore différent. C'est dur. Encore maintenant, je sais pas dire à quel point c'était dangereux, à quel point j'ai eu de la chance. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, comme je le disais, avec cette guerre civile qui a éclaté entre 75 et 1991, si je ne me trompe pas, ça a vraiment en fait créé des divisions au sein de la population entre les communautés chrétiennes, musulmanes. En fait, les gens ont peur les uns des autres. Et moi, je pense aujourd'hui, après un mois de marche toute seule, que voilà, les gens disent que c'est dangereux à cause de ça, mais n'empêche qu'à l'époque, je savais pas forcément, tout le monde me disait que c'était dangereux. Et donc, je me suis un peu résignée à partir toute seule. Il y avait vraiment des gens qui me poussaient à le faire. Typiquement mon frère, qui a fait 14 000 km seul à vélo et qui me disait « c'est dingue, fais pareil, j'ai survécu ». Mais bon, voilà, j'étais à pied, j'étais une fille, je savais pas trop. Et donc j'ai décidé de partir avec un ami, en tout cas dans la partie nord du Liban, qui s'appelle Akkar, qui est une région à majorité musulmane, où il y a beaucoup de conflits entre les villages, qui est considérée comme moins safe, et on m'a dit s'il y a une zone où... parce qu'en fait, j'avais contacté tous les guides possibles qui travaillaient sur le Liban Mountain Trail, parce qu'il y a un site internet où ils sont répertoriés, ils m'ont tous dit « n'y va pas seul », sauf un qui m'a dit « écoute, si tu veux y aller seul, on t'arrêtera pas, mais en tout cas, dans la partie nord, le Akkar, vas-y avec quelqu'un », et donc j'avais décidé de faire ça. Et cet ami, qui est un très bon ami, m'a lâché la veille, parce que voilà, les Libanais... ils prennent des décisions et parfois après ils reviennent dessus, ce qui a été le cas ce jour-là. Et donc, je savais vraiment pas quoi faire. Mais j'ai du coup décidé de partir du sud, parce que la partie sud est considérée comme plus safe. Et donc d'aller du sud au nord et non pas du nord au sud. Et de partir du coup toute seule. Mais du jour au lendemain, en fait, j'avais pas prévu de partir seule et c'est ce que j'ai fait. C'est vrai que je parle du Liban Mountain Trail, c'est pas forcément très clair. Donc c'est un sentier qui traverse le pays du nord au sud sur, j'ai plus le chiffre exact en tête, je dirais 470 km par les montagnes. Faut savoir que le pays est tout petit, il fait moins que 470 km du nord au sud, mais en fait par les montagnes on fait beaucoup de détours, donc c'est pour ça que c'est aussi long. Il est divisé en 27 étapes. Donc moi donc j'ai commencé du sud, un peu du jour au lendemain. Enfin, je savais que je partais le 1er mai, mais je pensais partir du nord avec quelqu'un. Voilà, je suis partie seule. Du coup, je me suis réveillée le matin en me disant « bon bah ça y est, c'est aujourd'hui ». J'ai un ami qui était aussi mon coloc, qui m'a déposée à la gare de bus, qui est sous un pont au bord de l'autoroute, et puis il y a un bus qui s'est arrêté et qui m'a emmenée donc au lieu de départ, qui était à l'autre bout du Liban, au sud-est du pays, le long de la frontière syrienne, pas loin de la frontière. Et donc dans ce bus, je me suis retrouvée toute seule, j'avais préparé toutes mes affaires, j'avais fait une checklist que j'avais relue 1000 fois. Et puis bien sûr, j'ouvre mon sac et là, je me rends compte que ma gourde s'est ouverte et il y a de l'eau partout. J'avais pris un bouquin auquel je tenais, il avait pris une douche. Bon là, je me suis dit, j'ai pas bien fermé ma gourde, ça arrivera une fois, pas deux. Il y avait que des militaires. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Là, j'ai un peu commencé à douter de moi. Et puis, mon voisin était sympa, mais assez alcoolisé pour l'heure matinale. Il commence à me poser des questions. J'aimais pas trop dire ce que j'allais faire, parce que j'avais peur qu'il y ait des gens qui me suivent. Je me méfiais un peu, j'avais du mal à appréhender les niveaux de danger, on va dire. Et puis voilà, il voulait venir avec moi pour me protéger et tout. Bon, j'ai décliné gentiment. Et ça a duré 1h30, 2h, et je suis arrivée donc, dans le village de Rachaya, au sud-est du Liban. pour commencer ma marche. Et là, le minivan m'a posé. Et là, je me suis retrouvée au milieu de ce village. Pour le coup, j'y étais jamais allée. Pour moi, c'était vraiment le bout du monde. Enfin, ouais, il y a un peu cette sensation de bout du monde. Parce que c'est pas une région où on va sans raison. Parce que c'est très proche de la frontière syrienne. Et donc, c'est un endroit où il y a beaucoup de réfugiés syriens qui vivent. Ça, j'en ai pas trop parlé, mais en fait, il y a une grosse partie de la population qui a fui la Syrie, qui habite aujourd'hui au Liban. Je crois qu'il y a 2-3 millions de Syriens au Liban, qui est déjà un tout petit pays, donc en fait, c'est, enfin, proportionnellement, c'est énorme. Et beaucoup vivent dans des tentes dans les plaines de la Bekaa, donc dans la région d'où je partais. Donc voilà, dans le bus, en fait, je traversais des champs avec ces tentes, avec les bâches des Nations Unies. Et je voyais les gens travailler dans les champs et je me suis dit waouh, c'est un peu le bout du monde, enfin on va jamais là-bas, mais bon, j'avais décidé de traverser le Liban, donc c'était pas que pour voir les endroits touristiques, bien au contraire. Donc voilà, je suis partie de là et là d'un coup j'étais vraiment surexcitée, je pensais avoir peur, être paniquée, de me dire ah ça y est je suis seule, c'est horrible. Et en fait j'étais super contente quoi, je me suis acheté un pique-nique, je suis partie, mais au début je savais pas trop quoi faire en marchant, le temps me paraissait long. Je suis un peu hyperactive, je fais toujours mille choses, et là, j'avais que ça à faire, marcher. Mais bon, j'ai commencé à écouter de la musique, à regarder autour de moi. J'ai pas rencontré grand monde ce jour-là, jusqu'à ce que j'arrive à un village, Kaou Kaba, je crois, où deux enfants libanais ont commencé à me parler. J'avais pris pas mal de cours d'arabe, donc heureusement que je parlais arabe, parce que sinon j'aurais eu beaucoup de mal à survivre, je pense. Mais donc ils ont commencé à me parler, et ils étaient assez jeunes, je dirais 10 et 5 ans. Et ils m'ont proposé d'aller chez eux pour dormir. Donc, hyper surprise, je me suis dit, mais les parents vont jamais vouloir. Et au final, j'ai été reçue comme une reine. Enfin, ça, c'est l'accueil libanais que j'ai mentionné tout à l'heure et qui a absolument transformé ma marche, qui l'a rendue si incroyable. Et en plus, donc j'étais chez des druzes. Les druzes, c'est une minorité musulmane qui vit en Palestine, au Liban et en Syrie, majoritairement dans les montagnes. Parce que dans l'histoire, ils ont été beaucoup persécutés. Et donc, en fait, historiquement, ils sont réfugiés dans les montagnes. Et c'est des gens qui sont... Enfin, tout le monde était adorable dans les gens que j'ai rencontrés, mais eux étaient particulièrement incroyables. Et en fait, ils fêtent l'Aïd, qui marque la fin du Ramadan. Et je suis arrivée par hasard. Enfin, je le savais, mais j'avais pas cherché à faire ça comme ça. Le soir de l'Aïd, et donc, en fait, c'était la fête chez eux. Avec la crise, ils mangent très peu de viande parce que ça coûte très cher là-bas maintenant. En fait, du coup, il y avait une table entière recouverte de viande. Bon, pas forcément de la viande que je mange, notamment de la viande crue, des abats crus. Voilà, mais ça fait partie des souvenirs marquants de ma marche, ça commençait bien. Et là, je me suis dit que tout allait bien, en fait. C'était pas si compliqué, je partais marcher. Puis je me faisais accueillir comme une reine dans une maison, avec des gens hyper sympas, et puis voilà. Le lendemain, ça a été un peu dur. Je vais pas raconter tous les jours un par un, mais je me souviens que... Ça, c'était assez marquant parce qu'en fait, c'était des druzes qui ne sortaient jamais de leur village. Ils me l'ont dit et puis je l'ai vu après. En fait, ils m'ont dit « tu repars pas, c'est hyper dangereux ». Et ils m'ont dit « on va te déposer en voiture 10 km plus loin, là où c'est un peu plus en sécurité ». Et moi, je me disais, deuxième jour, je m'étais promis de pas faire 1 km en voiture. Deuxième jour, je refuse de monter dans une voiture. Et en fait, ils m'ont pas laissé le choix. Ils ont appelé des amis libanais qui parlaient mieux arabe que moi, qui leur ont expliqué que ça allait. Et en fait, ils ont jamais lâché l'affaire. Donc j'ai dû faire ces 10-15 km en voiture, ce qui m'a un peu crevé le cœur. Avec du recul, c'était rien. Mais sur le coup, j'étais tellement motivée pour marcher. J'avais l'impression qu'on me coupait l'herbe sous le pied. Et surtout, j'avais envie de profiter de ce sentiment de liberté quand on est seul en marchant. Et là, je l'avais pas. La deuxième journée, elle a été très particulière parce que ça a été la première vraiment dans la montagne où j'avais pas du tout de réseau. Ça fait assez bizarre parce que y avait personne. En fait, sur ces chemins de randonnée qui sont des chemins de bergers majoritairement, il y a peu de bergers et il y a aucun randonneur parce que c'est pas dans la culture des Libanais. Et bah, pour la première fois de ma vie, je pense, je me suis retrouvée vraiment sans réseau, toute seule, en me disant que si j'avais le moindre problème, je devrais me débrouiller... Bah, toute seule, quoi. Et c'est vraiment la première fois que je faisais face à cette sensation qui m'a fait hyper peur au début. Je me retournais tout le temps. Dès que j'entendais un bruit, je me disais que c'était un énorme serpent. Bon, au final, il y a beaucoup de lézards au Liban, donc je sursautais un peu pour rien. Et puis j'ai essayé de m'occuper, donc j'ai appris plein de poèmes. J'écoutais de la musique quand j'avais un petit peu de réseau et de la batterie. Mais j'ai fini par me faire à ça. Et puis le deuxième soir, je suis arrivée dans la ville de Jézine. Et pareil, j'étais bien accueillie. Enfin, en fait, tous les soirs, j'arrivais dans les villes pas trop tard. en sachant pas où j'allais dormir. Ça, c'était mon grand jeu. Je me disais, je suis pas à l'aise avec ça, de me dire que je sais pas où je dors le soir, c'est pas hyper confort. Et ben, je me force à pas prévoir, même si à certains moments j'aurais pu. Parce que voilà, c'était la surprise et du coup, ça me permettait de faire des rencontres complètement improbables. À plusieurs moments, je me suis rendue, mais qu'est-ce que je fais là ? J'essayais aussi de pas garder leurs contacts, de pas prendre de photos, de faire ces rencontres en sachant pertinemment que j'allais pas revoir les gens. Mais voilà, le fait de n'avoir aucune trace de ces personnes, je trouvais ça assez beau. Et donc, je suis remontée vers le nord, j'ai traversé la région du Chouf, qui est une réserve naturelle en montagne, en altitude. Et c'est surtout un endroit qui est très connu, parce que c'est là où il reste des cèdres du Liban. C'est une des réserves principales, la réserve de Barouk, notamment. Et en fait, on entend tout le temps parler des cèdres du Liban. C'est sur le drapeau, c'est sur les billets, sur à peu près tout, sur les paquets de cigarettes. Enfin voilà, c'est une religion là-bas, mais on les voit pas parce que en fait, historiquement, ils étaient exportés vers l'Égypte et on a beaucoup construit avec. Et en fait, le Liban était recouvert de cèdres et tout a été coupé. Et aujourd'hui, avec le réchauffement climatique qui pousse de plus en plus en altitude, les réserves remontent vers le haut des montagnes, et donc ça fait qu'il en reste très peu. Et moi j'avais envie, je les avais déjà vus une fois, mais j'avais envie de les revoir, et tout avait plus de sens en plus avec cette traversée à pied. Être dans le Chouf, marcher au milieu des cèdres, c'était vraiment un souvenir incroyable. Le premier jour, il y avait beaucoup de brouillard, on voyait très peu, mais c'était quand même dingue, ça faisait un peu mystique comme paysage, c'était marrant, et le lendemain ça s'est complètement dégagé, donc c'était vraiment super. Et en fait, notamment à partir de là, sachant que j'avais vu des paysages que je connaissais parce que j'étais déjà allée dans certains endroits avant, mais en week-end, avec des amis, en voiture, en fait, je m'y attendais un petit peu, mais pas autant, à redécouvrir complètement le pays. Et j'avais déjà entendu en lisant des bouquins que marcher permet de redécouvrir des endroits qu'on connaît, de découvrir d'une manière très particulière des pays, des régions. Et là, j'ai vraiment été frappée par ça, en fait, notamment parce qu'on est lent quand on marche. Du coup, en fait, on prend beaucoup plus de temps d'observer. J'ai beaucoup de souvenirs visuels, des paysages, etc. Je pense que j'en aurais pas eu autant si j'avais fait des randos de manière ponctuelle, si je m'étais beaucoup déplacée en voiture ou en stop. Et aussi, en fait, quand on marche, on arrive avec une posture qui est tellement simple, on arrive juste avec un sac à dos, et à une époque où les gens ont très vite peur, on se méfie, etc., on met beaucoup de barrières, mais en fait, arriver avec un téléphone qui a plus de batterie, un sac à dos, et en fait, les gens, ils se disaient tous, mais la pauvre, ils répétaient tous ça, et j'avais envie de leur dire, mais enfin, je leur disais d'ailleurs, mais non, pas la pauvre, je suis tellement heureuse de faire ça, mais du coup, en fait, avec cette posture tellement simple, les gens m'accueillaient beaucoup plus facilement, et ça permettait de faire des rencontres dingues. Et j'ai vraiment eu l'impression, ouais, de redécouvrir le pays, et aussi parce que le pays traverse une telle crise qui a vraiment commencé, la crise financière a commencé en 2020, d'ailleurs la première fois que j'y étais, quand le Liban a fait un défaut de paiement auprès du FMI. Il y avait déjà une crise sociale qui avait commencé 6 mois avant, en octobre 2019, avec des grosses manifestations tous les jours. Ils avaient appelé ça la Saoura, ça veut dire révolution en arabe. Et en fait, ils réclamaient le départ de la classe politique, qui était globalement la même depuis la fin de la guerre civile dans les années 90. Une classe politique complètement corrompue. Cette crise sociale, financière, économique, qui a été empirée par le Covid, par les confinements à répétition. Et depuis, en fait, il y a une inflation qui est galopante, qui a commencé en 2020. Juste après le défaut de paiement, et qui a atteint des niveaux vraiment... Enfin, je pense qu'on n'en parle pas assez par rapport à l'ampleur de cette inflation et du coup de la crise que ça entraîne. Les Libanais ont plus beaucoup de pouvoir d'achat, enfin même plus du tout. La livre libanaise, à l'époque, 1 dollar, c'était 1500 livres libanaises. Là, quand je marchais, ça a atteint 35 000, donc 1 dollar, 35 000 livres libanaises, pour vous donner un ordre d'idée. C'est énorme, et en fait, cette crise, on peut pas y échapper au quotidien. On la voit, on la vit forcément, parce que il y a aussi un problème de production d'électricité. Donc l'État produit 2 heures d'électricité par jour, donc il y a des générateurs privés, mais qui coûtent une fortune. Moi, j'avais la chance d'en avoir un qui fonctionnait la journée. voilà, il y a quand même des coupures d'électricité. Quand ça saute, il faut descendre au rez-de-chaussée. J'étais au cinquième sans ascenseur. Donc, quand t'es dans ta douche, c'est pas très drôle. Enfin, voilà. Et ça, c'était vraiment un détail. Et moi, j'avais pas du tout à me plaindre. Mais en fait, cette crise, on la voyait tout le temps. Et en fait, au bout d'un moment, c'est compliqué. Forcément, on aime le pays. Mais ça fait aussi beaucoup souffrir de le voir comme ça. Donc, en fait, les Libanais parlent de relations toxiques. Et donc, c'était aussi dur. Et là, revenir un peu à l'essentiel, partir dans la nature, en fait, au milieu de la montagne, bah, la crise, on la voit pas. Et c'est pas que je la fuyais, mais j'avais besoin, pour vraiment aimer ce pays et avoir l'impression de connaître ce pays, de le voir un peu, en fait, sans son aspect crise multidimensionnelle. Ça a été une belle expérience. Parce que voilà, j'ai redécouvert le pays comme ça, un peu au-delà de la crise, sa beauté, parce que c'est un pays qui est tellement riche en termes de culture, d'histoire, d'accueil, même de musique. Enfin, en fait, c'est une culture qu'on connaît très peu, mais ils ont un savoir-vivre qui est dingue dans leur accueil, dans leur... Enfin voilà, ils font tout le temps la fête, même au milieu de ces crises. Ils se débrouillent pour faire un énorme repas le dimanche en famille, pour passer l'après-midi à danser sur des musiques traditionnelles. Ils sont hyper accueillants, ils comptent pas quand tu vas chez eux. C'était vraiment super de voir ce côté-là, tout ce côté-là. À côté de ça, le fait de dormir vraiment chez des familles qui n'étaient pas forcément les plus aisées d'ailleurs, ça m'a vraiment plongée au cœur de la crise, bien plus que juste avoir des coupures d'électricité chez moi à Beyrouth. Notamment, bon là du coup je saute un petit peu mes 500 km de randonnée, mais le dernier jour en fait j'ai arrêté un peu plus tôt que prévu. J'ai arrêté avant cette région du nord, le Hakkar, que finalement je n'ai pas faite parce que personne pouvait la faire avec moi et je voulais pas prendre le risque. Et surtout que, en fait, je pouvais m'avancer un peu en taxi pour vraiment éviter une zone dangereuse et après continuer, mais j'ai décidé de pas le faire parce que les taxis coûtaient une fortune et c'est surtout que ce week-end-là, c'est là que le dollar a atteint 35 000 livres libanaises et en fait, j'étais dans une famille, dans les discussions en arabe que je comprenais, tout tournait autour de cette crise. Et en fait, je le savais, mais le voir, ça a été quand même assez dur. La première question le matin, c'était à quel prix est le litre d'essence, de benzine, comme ils disent là-bas, parce que ça a augmenté tous les jours, à vue d'œil. Et je me souviens, le dernier matin, j'ai vu la petite fille de la famille donc chez qui j'étais, qui avait 5 ans, et qui a demandé à son père le prix du litre, parce que en fait, elle était tellement habituée à ces discussions que maintenant, elle y prenait part. Et je me suis dit, mais... les enfants ont plus d'enfance, ça m'a vraiment marqué. Donc à la fois, ouais, j'ai redécouvert le pays sans crise, et à la fois, ça m'a quand même beaucoup marqué d'être chez les gens et d'entendre ça. Et en fait, après cette histoire, voilà, je me suis dit, non, je vais pas prendre un taxi que je vais payer $50, enfin, ce qui était déjà énorme de manière générale, mais avec $50, ils font beaucoup. Et en fait, si j'avais envie de le dépenser, c'était plus pour leur donner à eux que le mettre dans un taxi. Du coup, ça a un petit peu raccourci mon aventure, qui a été quand même incroyable, parce que... je l'ai déjà dit plein de fois, mais j'ai l'impression d'avoir redécouvert ce pays. J'ai aussi complètement redécouvert la nature, j'ai l'impression, parce que la nature libanaise est très belle, n'est pas forcément respectée et protégée par les Libanais, malheureusement, dont c'est pas la priorité dans la crise actuelle. La nature est magnifique. On passe de paysages très secs à des paysages très verts, avec d'un coup la vue sur la mer, alors qu'on est au milieu des montagnes, parce que c'est pas un pays qui est grand. La côte est jamais loin. Et du coup, c'est vraiment extraordinaire, enfin, d'avoir vécu... un mois comme ça dans la nature ou jamais très loin. Et finalement, je me suis vraiment fait à la solitude aussi parce que c'était un peu ma peur de départ et c'était vraiment dingue. Il y a peu de monde qui est venu marcher avec moi, mais au final, c'était vraiment ma décision. Et je faisais de telles rencontres le soir que en fait, c'était très bien comme ça. Pour moi, c'était aussi un peu la consécration de mon année au Liban, durant laquelle j'avais l'impression d'avoir vraiment bien découvert le pays, parce que je faisais vraiment l'effort le week-end d'aller dans des familles libanaises qui m'accueillaient, des familles d'amis, etc. Mais j'ai des amis libanais qui m'ont dit, en fait, tu nous fais redécouvrir notre pays parce que tu le vois d'une autre manière, avec un regard neuf, pas forcément abîmé par l'histoire récente, qui est difficile. Et puis, t'es allé dans des endroits où personne n'est allé, quoi. Le sentier, il passe tous les jours par la montagne, etc. Et les Libanais, ben, en fait, ils font pas ça. Finalement, je me suis rendu compte que le pays était pas si dangereux. Je pense que j'ai eu de la chance, mais de manière générale, en fait, c'est un pays où les gens sont très bienveillants. Et les gens sont pas méchants, c'est juste que les gens se connaissent pas les uns les autres. Et voilà, les gens ont pas du tout l'habitude de ce genre d'expérience. J'ai une anecdote qui m'est revenue tout à l'heure en pensant à ça. Un moment où je me suis vraiment demandé ce que je faisais là et qui montre que les Libanais n'étaient pas du tout habitués à voir des personnes faire de la randonnée seules, encore moins des femmes. J'ai dû traverser à un moment une sorte d'autoroute. C'est pas les autoroutes comme en France, mais c'est des un peu comme des voies rapides. Et donc au Liban, il y a beaucoup de checkpoints parce que là, je l'ai plus ou moins dit, mais en fait le pays est divisé entre villages ou régions chrétiennes et musulmanes. Et il y a beaucoup de checkpoints en fait entre ces régions qui sont hérités de la guerre civile et qui ont été gardés. Il y a différentes versions, mais il y en a qui disent que si un jour le pays éclate à nouveau, ça permettra de fermer les routes de manière rapide, et d'autres disent juste que c'est historique. Mais en tout cas, donc j'ai traversé cette route principale au niveau d'un checkpoint, parce que du coup les voitures s'arrêtent et donc c'est beaucoup plus facile pour traverser. Et là, j'arrive, et en fait c'était une heure de pointe, il y avait énormément de bouchons comme souvent au Liban, et donc les voitures étaient complètement arrêtées, et moi je débarque là-dedans, et j'avais dormi la veille dans la réserve des cèdres du chouf dont je parlais tout à l'heure. Donc en fait j'avais vraiment pas vu de civilisation depuis 2 jours, et là j'arrive sur cette route, donc déjà l'odeur des pots d'échappement, le bruit, enfin au Liban c'est vraiment quelque chose. Et j'arrive, les voitures étaient arrêtées, et moi je traverse au milieu avec mes bâtons de marche qui résonnent sur le goudron. Et là je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Et les gens m'ont dévisagée dans les voitures, enfin vraiment, les conducteurs sortaient leur tête de leur voiture pour me regarder. Ils disaient rien, je pense qu'ils avaient peur de me parler, ils se demandaient vraiment ce que je faisais là. C'était marrant, et le militaire du checkpoint aussi, il m'a rien dit. Moi je lui ai dit bonjour en arabe, mais il m'a rien dit. Mais il m'a regardé longtemps parce qu'après en fait c'était une ligne droite, donc mais je me suis retournée un moment, il me fixait encore en se disant mais elle va s'arrêter un moment, qu'est-ce qu'elle fait avec mon sac de 13-14 kilos sur le dos. Il a pas rigolé, juste il s'est demandé ce que je faisais là, et c'est à ce moment-là que je me suis dit en fait c'est pas du tout la culture de ce pays. J'ai donné envie à certains, j'ai fait découvrir le pays entre guillemets à d'autres, donc c'était une très belle expérience. Et ouais, c'était un peu une concrétisation de cette année qui m'a bien fait découvrir ce pays qui est magnifique.
Merci beaucoup pour ton récit. Pourquoi t'as voulu raconter ce voyage en particulier ?
C'est un voyage qui m'a beaucoup marqué cette année. Plus qu'un voyage, j'ai l'impression d'avoir vécu là-bas, d'avoir un peu commencé une vie là-bas. D'ailleurs, j'en parlerai peut-être après, mais j'aspire à y retourner. Et plus particulièrement, ce Lebanon Mountain Trail que j'ai fait, j'aspire à en parler parce que ça m'a énormément marqué. Ça m'a un petit peu changé quand même. J'aime parler du fait que la randonnée, c'est une manière exceptionnelle de voyager, et qu'en fait, avoir marché autant à travers ce pays, ça permet vraiment de le découvrir autrement. Donc, je tenais à le dire.
De manière générale, quand tu voyages, comment tu prépares ton voyage et quelle place tu laisses à l'improvisation une fois que tu es sur place justement ?
Alors, dans le cadre bien précis de la randonnée, quelle que soit la randonnée, je prépare vraiment bien à l'avance, parce que pour moi, une randonnée spécifiquement, elle se passe bien si t'as aucun problème de matériel, ni d'itinéraire, si t'as bien les cartes, si tu prévois de pas avoir de réseau, mais du coup que t'as téléchargé tes cartes, tes itinéraires, etc. Pour moi, ça, c'est très important, et c'est la seule manière pour que ça se passe vraiment bien. Et en fait, du coup, tu gagnes de l'énergie et du temps sur place. Après, le Liban et les voyages plus, comment dire, en ville, je les prépare à moitié. Je prévois toujours un minimum d'organisation, matériel, avoir des contacts, etc. Mais après, j'aime aussi être surprise. Et comme je disais sur le Lebanon Mountain Trail, j'aimais pas savoir où je dormais le soir. Bah voilà, c'est un petit peu ça. C'est le fond est organisé, mais surtout, je veux de l'improvisation et de la surprise.
Quand tu voyages, qu'est-ce que tu prendras toujours avec toi dans ton sac ?
Avant, j'aurais dit un livre. Mais maintenant, je dirais des pastilles pour purifier l'eau, parce que j'en ai pas parlé, mais je suis tombée quand même bien malade à la fin, ce qui m'a valu d'être rapatriée. Donc voilà, maintenant je les mettrai toujours dans mon sac et je les utiliserai.
De quelle façon tu documentes et tu racontes tes voyages ? Et est-ce que tu as un médium préféré pour le faire ?
Alors moi, j'ai toujours aimé écrire. Je veux d'ailleurs en faire mon métier en tant que journaliste. Et du coup, j'ai un petit peu cette fibre-là. J'aime raconter ce que je fais. J'aime témoigner par l'écrit. J'écris beaucoup pendant mes voyages, et ce que j'ai commencé à faire, mais que je vais refaire, je pense, durant mes prochains voyages, c'est faire une chaîne de diffusion sur... je la faisais sur WhatsApp. En fait, j'avais une liste avec tous mes proches, et tous les soirs, ils recevaient un message pour avoir déjà de mes nouvelles, pour savoir que j'allais bien, et pour raconter, en fait. Et j'ai eu des très bons retours. C'est simple à faire, ça prend pas beaucoup de temps, mais ça permet d'avoir les expériences à chaud, et je trouve ça assez intéressant.
Une fois que t'es de retour au pays, comment tu gères le retour ? Et si tu es atteinte du blues post-retour, comment tu te soignes ?
C'est dur de parler du retour de manière générale, parce que ça dépend aussi de l'expérience. Après un mois seul à faire de la randonnée, au-delà du pays dans lequel on revient, etc., c'est très dur de reprendre un rythme de vie normal, de reprendre un rythme de vie un peu effréné avec du bruit, etc. Ça, c'est assez dur. Donc, je l'ai géré en m'isolant d'abord un petit peu et en recommençant petit à petit à reprendre un rythme un peu plus normal pour pas me forcer d'un coup, en fait, à reprendre un rythme intense. Et en termes de changement de culture, quand je suis rentrée en France après le Liban, ça a été très dur parce que j'étais dépaysée, parce que j'avais pas envie de rentrer forcément. Mais j'ai toujours un peu tendance à me donner les moyens d'être heureuse au moment où je suis et à l'endroit où je suis. Donc en fait, je me dis, bon bah voilà, c'est comme ça, j'ai tellement profité, j'aurais pas pu faire plus. Je profite tellement bien de mes voyages que je me dis ça. Et ouais, en général, là du coup je pense au Liban, mais de manière générale, de retour de voyage, je me dis, bon bah c'était dingue, mais maintenant c'est terminé, il y en aura peut-être d'autres. Et puis je suis toujours aussi contente de rentrer en France parce que j'adore ce pays, j'ai des proches que j'aime plus que tout. Donc voilà, je me dis que je suis bien là où je suis et puis je me fais à l'idée de rentrer.
Comment tu considères la rencontre en voyage ? Est-ce que c'est plus des relations à usage unique ou des relations qui durent ? Et quelle est la rencontre au cours d'un voyage qui t'a particulièrement marqué ?
Quand je pars en voyage, les rencontres sont pour moi très importantes. Je pars aussi en voyage pour aller à la rencontre de l'autre. Au Liban, il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait la remarque, qui m'ont dit « quand tu parles du Liban, de ton expérience au Liban, tu parles que des gens, des rencontres que tu fais, mais pour moi c'est essentiel. » Après, il y en a que je garde, il y en a que je garde pas, ça dépend. Dans le cadre de ma randonnée, je n'ai pas forcément voulu garder contact parce que je partais seule, mais pour le coup, globalement sur mon année au Liban, sur tout ce voyage-là, et je pense aussi à d'autres voyages, enfin, j'ai pu garder contact. Mais voilà, ça dépend un petit peu dans quelle posture je me place en partant. Et je pars dans des pays pour rencontrer aussi les habitants, les cultures, je trouve ça tellement riche. Et une rencontre qui m'a beaucoup marquée, c'est une dame qui s'appelle Lamia, qui a, je dirais, 55 ans. Et je l'ai rencontrée un peu par hasard au mois de mars, quand j'étais au Liban. Elle travaille dans une maison d'hôte. En fait, elle a récupéré une vieille maison et elle a créé une maison d'hôte qui est pas très grande, c'est vraiment familial. Et en fait, elle cuisine très très bien. Et du coup, elle accueille aussi beaucoup de gens qui viennent juste déjeuner et elle a une force. En fait, elle a créé ça toute seule, comme une grande, en pleine crise. Et elle travaille comme une dingue. Tout son amour passe par sa cuisine, quoi. Et au-delà d'être très très bon, la meilleure cuisinière du Liban pour moi, elle est aussi adorable. Et moi, j'ai accroché avec elle. J'ai déjeuné un jour chez elle. Et je lui ai dit, écoute, je veux revenir chez toi tout le mois de juin pour travailler, apprendre la cuisine, ce que j'ai fait. Enfin voilà, c'était comme ma maman. Et pendant ma randonnée, je suis passée par là et je me suis arrêtée une journée complète. Et elle a pris soin de moi. Elle m'a fait découvrir tous ses secrets de cuisine par rapport à la nature. Enfin, elle va dans un champ et elle connaît toutes les herbes. Enfin, elle appelle ça mon supermarché, la nature. Elle a une connaissance de la nature qui est dingue, une force d'âme qui est dingue. Et elle m'a beaucoup marquée. Et j'espère la revoir bientôt.
Tu disais au début de cet entretien que tu comptais retourner au Liban. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Alors, j'ai beaucoup de projets et pas assez de temps. Mais donc, j'ai passé un an au Liban et comme je le disais, au-delà d'être un voyage, c'était aussi un... En fait, j'avais un petit peu ma vie là-bas et je me voyais rester encore un peu plus longtemps. Mais mon master m'attendait en France. Je sais pas de quoi l'avenir est fait, mais je me vois quand même plus ou moins vivre au Liban quelques années, du moins. Et au-delà de ça, j'ai tellement aimé cette expérience de randonnée au long cours. C'était tellement enrichissant personnellement, culturellement parlant, que j'aimerais beaucoup en refaire. À la fin, je m'étais dit une par an. c'est peut-être un petit peu ambitieux en vue de mon calendrier. Mais j'ai découvert, dans ce podcast d'ailleurs, avec quelqu'un qui s'appelle Victor, l'équivalent du Lebanon Mountain Trail en Jordanie, que j'aimerais énormément faire. Qui est plus dur et un petit peu plus dangereux pour le coup, donc voilà, ça se prépare peut-être encore un peu plus. Il y a aussi l'équivalent en Égypte, le Sinai Trail, que j'aimerais bien faire. Il y a l'équivalent en France depuis le mois de juin, qui est pas très connu, mais qui s'appelle l'Exatrek. Et je me dis, voilà, je pars loin pour marcher, j'ai aussi envie de marcher en France, de traverser la France, mais ça prend 4 mois, donc il faut avoir le temps. Mais voilà, j'ai surtout des projets de randonnée, parce que... c'est ce que j'adore et je trouve que c'est une manière magnifique de découvrir le pays parce que ça respecte l'environnement, la culture, les habitants et puis ça permet de prendre le temps, ce qu'on fait pas au quotidien. Donc je trouve que c'est un très beau moyen de voyager.
Écoute, on arrive à la fin de cet entretien, donc tu as un petit espace qui t'est réservé, dans lequel tu peux partager une dernière anecdote, une recommandation, un proverbe, une citation, c'est à toi.
Si j'ai un conseil à donner, que j'essaye de m'appliquer moi-même, hein, mais c'est de ne pas attendre d'avoir du monde avec soi pour partir voyager, parce que j'ai longtemps attendu, je pense, enfin, à certains moments j'ai attendu et du coup je suis pas partie. Mais faut pas avoir peur de partir seule, parce que déjà, c'est quand on est seul qu'on rencontre le plus du monde. Il y a une phrase qui me vient là, c'est « on est moins seul qu'à deux ». Et c'est vrai. On rencontre beaucoup de monde, et puis en fait, ça fait aussi apprendre sur soi. Je pense qu'il faut arrêter d'avoir peur d'être un peu seul avec soi-même. Et puis en fait, c'est dommage d'attendre, parce que parfois, il y a personne qui est dispo avec nous, et du coup, on passe à côté d'expériences de dingue. Et quand on le fait une fois, après, on a envie de le refaire, et même parfois, on a envie de voyager seul, quand on peut voyager avec du monde. Donc voilà, c'est le petit conseil qui est pas applicable à tous les coups, mais que je peux donner.
Merci beaucoup.
Et voilà, c'était Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Merci beaucoup pour votre écoute, j'espère que ça vous a plu. Merci également à mon invité pour sa chouette histoire. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre application d'écoute préférée. Vous pouvez aussi écouter Bourlinguer sur la web radio Voyage, Allô la planète. Vous pouvez également suivre le podcast sur Instagram, bourlinguer.podcast. Ah oui, une dernière chose. La musique que vous entendez derrière s'appelle « J'ai bourlingué ». Elle a été écrite et interprétée par Serge Raphaël. Merci à lui.